11h passée de 1 minute sur Radio Campus Tours. Chers auditeurs, vous écoutez La Méridienne. Et aujourd'hui, en studio avec moi, j'ai le plaisir d'avoir trois invités. Alors, je vais commencer par saluer Mathilde Fombostier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice de La Pratique. Voilà, donc c'est à Vatan et c'est un lieu d'accueil d'artistes. Vous nous en direz plus plus tard. Je salue ensuite Alice Ginsberg. Bonjour.
Bonjour.
Alors Alice, vous êtes coordinatrice vie littéraire à Cyclique. Et enfin, je salue Bernard Boulade. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes l'auteur associé dans le cadre d'une résidence portée par Cyclique à La Fabrique. Ça y est, à La Pratique, pardon, chers auditeurs. Ça y est, vous avez relié les trois invités. Alors peut-être pour commencer, voulez-vous, Alice Ginsberg, nous expliquer en quoi ça consiste ce dispositif de résidence d'artiste, et je me permets au passage, et je m'en excuse peut-être, de vous demander de lever un peu le micro, voilà, que mes invités m'excusent, j'ai oublié de le préciser avant, voilà, je vous en prie.
Oui, au sein de Cyclique est une agence régionale du livre et de la lecture et de l'image. On gère plusieurs dispositifs qui visent à accompagner et à soutenir les professionnels, les professionnels de ces différents champs. Et les deux dispositifs qu'on coordonne sont les résidences d'auteurs. C'est des résidences au sens traditionnel où un auteur va être hébergé pendant 2 mois minimum par une structure régionale. L'autre dispositif est le dispositif auteur associé. Celui auquel Bernard et La Pratique se sont, pour lequel se sont Bernard et La Pratique se sont associés, qui consiste à accueillir un auteur pendant une durée de entre 4 et 10 mois sur un territoire. Et en fait, ce dispositif vise en fait à expérimenter une rencontre entre un auteur et une structure pour créer des temps de médiation avec différents publics et permettre à l'auteur d'être dans de meilleures dispositions pour pouvoir écrire.
Merci Alice Ginsberg. Alors peut-être est-ce que vous voulez nous dire un mot avant qu'on passe la parole à Mathilde Fombostier qui représente La Pratique, juste nous expliquer comment vous avez repéré les structures accueillantes et les artistes ou les auteurs qui peuvent aller en résidence. Comment ça se passe ?
En fait, il n'y a pas vraiment de règles. Des fois, c'est l'auteur qui vient nous voir, qui nous dit qu'il a vraiment envie de faire une résidence dans la région. Et des fois, c'est la structure qui recherche des auteurs parce qu'ils ont un thème particulier. Et puis des fois, c'est une structure qui a repéré un auteur parce que c'est quand même la structure qui va porter la résidence. Et qui a toutes les clés en main, qui simplement nous demande un accompagnement au niveau administratif et financier, du coup, pour pouvoir mettre en place cette résidence. Et c'est ce qui s'est passé pour la pratique, du coup, puisque on a reçu le projet, on va dire all inclusive, puisqu'il y avait Bernard avait été choisi par le centre, la pratique en amont. Et comme c'est une structure qui a l'habitude d'accueillir des artistes en résidence, ça a été un plaisir de monter ce dossier avec eux et de les accompagner tout au long de cette résidence.
Merci Alice Ginsberg. Donc on rappelle que vous êtes coordinatrice vie littéraire à l'agence Cyclique Centre Val-de-Loire. Je me tourne vers vous Mathilde Fombostier, donc coordinatrice de la pratique à Vatan dans le 36, c'est l'Indre je crois. Alors est-ce que vous aimeriez nous présenter la pratique? Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qu'on y fait?
Donc oui, la pratique, c'est un atelier de fabrique artistique. Maintenant, elle a ce label décerné par le département de l'Indre. Et c'est un lieu de résidence. Initialement, c'est un lieu de résidence où vraiment tout le principe, c'est d'accueillir dans ce lieu qui est un ancien chai, donc où il y a pas mal d'espace, qui est dans la campagne indrienne. Donc il y a vraiment, on ne dérange personne et on est au centre d'un village. C'est un lieu où il y a un studio, une maison d'artistes, donc dans lesquels on accueille des compagnies ou des auteurs. Il y a vraiment des profils très différents. Le principe, c'est que nous, on lance des appels à projets auxquels répondent des compagnies. Je dis compagnies parce que souvent, en fait, c'est des compagnies de danse, théâtre ou cirque qui veulent profiter de ce studio. Il y a parfois des auteurs ou autrices qui répondent aux projets, mais c'est un peu plus rare. Donc voilà, c'est surtout des compagnies qui viennent. Nous, on leur met à disposition les lieux auxquels ils ont accès quand ils veulent sur leur temps de résidence, qui peut être d'une à deux semaines. Souvent, c'est ces temporalités-là. Et voilà. Et donc, nous, on les accueille, on leur met tout à disposition, puis ils occupent comme ils le souhaitent les espaces. Et c'est vrai que de plus en plus, ça fait déjà un petit moment, la pratique existe depuis une dizaine d'années à peu près. A été créée par Cécile Loyer, qui est une danseuse et chorégraphe, qui a sa propre compagnie, la compagnie Célois. Et donc, ça fait une dizaine d'années qu'elle a créé la pratique dans ce lieu qui était sa maison familiale anciennement. Et on essaye de plus en plus de s'intégrer au territoire. Donc, un territoire très rural avec peu d'équipements culturels ou en tout cas assez éloigné. Des populations. Et donc nous, installés ici dans Vatan, un village de un petit peu moins de 2000 habitants, c'est tout un travail de médiation qui se crée, et notamment avec les écoles, avec les crèches, les collèges, qui s'avèrent sont autour de la pratique. Vraiment, on est très bien situés par rapport à eux. Et donc voilà, tout le projet, c'est de permettre, par exemple, quelque chose qui se fait assez régulièrement, c'est que les enfants qui sont au centre de loisirs le mercredi après-midi, viennent à la pratique et un atelier d'une heure, une heure et demie avec la compagnie en résidence. Voilà, s'ils sont partants pour le faire, ça se fait assez facilement. Et sinon, il y a des projets qui se font depuis longue durée, comme avec Bernard, et plus régulièrement, de médiation, d'ateliers, avec des profils assez différents.
Et alors, comment s'est fait le lien, justement, avec Bernard Boulade, donc résidence de bande dessinée de janvier à juin 2022. Comment vous êtes rencontrés?
Alors, je crois... moi, je n'étais pas encore là, donc je n'ai pas la source du projet. Je crois que Bernard est venu vers la pratique pour proposer son projet. Voilà, peut-être qu'il en dira plus que moi sur ce sujet, mais il est venu vers la pratique, il a proposé... qu'il est en train de faire, pourquoi il souhaitait faire une résidence, sa création actuelle et tous les projets de relations avec les publics, de médiation qu'il souhaitait faire avec nous et donc le territoire autour de la pratique.
Alors on se tourne vers vous Bernard Boulade, qu'est-ce que vous aimeriez dire?
Oui, en fait, quand on est, disons, en début de projet ou quand on a un projet qu'on veut, sur lequel on veut travailler, on a besoin de temps, on cherche des résidences, en fait, on veut des lieux éventuels de résidence où on peut, on peut avoir du temps à soi, enfin vraiment à consacrer au projet et pas à d'autres. Et moi, je cherchais effectivement des lieux de résidence. J'en avais fait déjà quelques-unes, mais pas de ce type-là tout à fait. Pas aussi longues aussi. Et quand j'ai découvert le dispositif créé par Cyclique, j'ai trouvé que c'était une occasion de prendre de consacrer de ce temps. Enfin, j'aurais le lieu et le temps de me consacrer à ce projet-là. Je vais vous parler du projet peut-être plus tard, mais disons que c'est une façon pour moi c'est comme une retraite d'écriture, quoi. Vraiment, c'est bon, j'habite à Paris, il faut préciser. Et à Paris, dans un appartement parisien, parfois on peut finir par étouffer un peu. On a toutes les tentations et les obligations du quotidien. Et c'est vrai que quand on se met un peu en retraite comme ça, ça nous vraiment permet de nous concentrer sur le projet et de pouvoir d'abord faire. Bon, il y a différentes étapes, bien sûr. Mais là, donc j'ai proposé le projet sur lequel je travaille à la pratique. Je sais que la pratique n'avait jamais reçu de scénariste de BD avant. Ils avaient déjà reçu des auteurs. Mais jamais ils ne sont jamais allés sur ce créneau-là. Et donc, je pense que le projet les a intéressés. Et c'est comme ça qu'on a monté ensemble ce projet de résidence, en fait. Moi, j'avais proposé, les actions un peu que je fais, que je peux porter, le type de médiation que je peux faire, de sensibilisation, notamment à la BD, mais pas seulement à la BD, vraiment au roman graphique ou à un style de roman graphique. Comme je travaille beaucoup sur un roman graphique porté sur le réel, une méthode de travail qui part d'une réalité et après qui arrive à la romancer, en fait. Comment romancer, en fait, ce sens sur ces, notamment sur ce type d'approche. J'ai pensé que c'était une belle occasion à travers, notamment, on a pensé au collège et à d'autres structures qui étaient à Vatan et autour, notamment des lycées aussi, qui sont plus loin, par exemple, les médiathèques. Donc c'est une série d'actions, en fait, de sensibilisation. De découverte vraiment de ce travail-là. On voulait faire aussi, on avait un projet qu'on voulait monter au départ avec l'EHPAD de Vatan, mais il y avait encore la pandémie qui bloquait les accès, enfin qui rendait la chose un peu plus complexe. Moi, j'avais envie de mettre en lien, en fait, des résidents des EHPAD avec des collégiens. J'avais envie qu'ils se parlent et que les résidents racontent leur histoire, une partie de leur histoire ou de souvenirs qu'ils transmettraient à des plus jeunes. Et j'aime bien travailler sur justement ces relations intergénérationnelles pour que les collégiens puissent après raconter une histoire, enfin sous forme de roman graphique. Voilà, c'était un peu un projet qu'on avait fait, mais qu'on n'a pas, malheureusement pas pu faire dans ce cas-là.
Alors peut-être qu'on peut révéler le sujet de cette résidence, Va nous prisonnier de conscience. Alors qui est ce personnage ?
Alors comme j'ai un peu l'habitude de travailler sur des faits réels, des histoires vécues, on va dire. Ma première BD, tournait autour de mon histoire familiale. Donc, c'était plus autobiographique. Là, vraiment, c'est une histoire qui ne m'appartient pas, mais que je dois quand même, que je dois aussi faire mienne, d'une certaine façon. Mordecai Vanunu est un lanceur d'alerte israélien qui, en 1986, a révélé le potentiel nucléaire d'Israël. Et dans une publication, dans un journal britannique, le Sunday Times, qui avait fait paraître ce reportage. Il avait pris il travaillait dans la centrale nucléaire de Dimona et il avait pris des photos, des documents et disons que il a travaillé 9 ans dans cette centrale Et au fur et à mesure de cette, de, disons, de ce, comme son expérience, il en est venu à la conclusion, voilà, enfin, il est devenu de plus en plus pacifiste. Il s'est rapproché aussi beaucoup de, des étudiants, parce qu'il était en même temps, il étudiait à la faculté de théologie à l'université qui était à côté de Dibona. Et il s'est rapproché donc des étudiants arabes. Voilà, il a pris une conscience, enfin, vraiment de, du conflit israélo-palestinien. Et il a choisi son camp, d'une certaine façon, le camp de la paix, le camp du pacifisme, le camp aussi de. Disons de la dénucléarisation de, bon, de la planète, mais surtout d'Israël. En fait, tout le monde, ça se savait, c'était un secret de polichinelle qu'Israël avait effectivement ce potentiel nucléaire. On ne savait pas jusqu'à quel point ce programme était développé. Ça se savait et Israël avait toujours, disons, eu comme discours une ambiguïté, en fait. Il disait... non, oui, peut-être. Enfin, ils disaient jamais. Voilà, ils ont toujours joué. Ils aimaient bien l'idée que tout le monde sache qu'ils ont ce potentiel nucléaire pour calmer éventuellement d'éventuels agresseurs. Et en même temps, ils voulaient pas trop le dire non plus. Pourquoi ? Parce que s'ils l'affirmaient officiellement, ils devraient être sous la coupe de l'AIEA et donc ils devraient être soumis à des contrôles. Tout pays qui a un potentiel nucléaire voilà, est soumis à des contrôles ou bien il devient un régime paria comme la Corée du Nord par exemple. Voilà. Et donc Israël ne voulait pas du tout qu'on vienne fouiller dans leurs affaires et donc c'est pour ça qu'ils gardent cette histoire d'ambiguïté. Et quand Mordecai Vanunu révèle cette histoire, Israël réagit très mal. En fait, il avait déjà à l'œil. Et il le surveillait déjà depuis un certain temps. Et finalement, voilà, je révèle un peu une partie de l'histoire que je suis en train de développer, réelle toujours. Ils l'ont kidnappé. En fait, il a été kidnappé à Rome et ramené en Israël. Et il y a eu un procès et il a écopé de 18 ans de prison, dont 11 en confinement, en fait, en isolement total. Il est sorti de prison, mais il est toujours prisonnier en fait en Israël. Il ne peut pas quitter le pays. Il ne peut pas non plus s'adresser à des journalistes étrangers. Il ne peut pas s'approcher à 500 mètres d'une ambassade. Enfin, il a une série de contraintes. Donc, il est encore en liberté, mais pas vraiment en fait en Israël. Et pourtant, il s'est marié entre-temps avec une Danoise. Le Danemark est prêt à le recevoir en tant que réfugié. Israël ne veut pas le laisser partir. Il n'a plus vraiment... Il n'y a plus grand chose à révéler, puisque voilà, commence à être un peu long. Ça fait long, ça commence à être un peu ancien. Voilà, c'est ce qu'il a su à l'époque. Mais il est détesté en Israël. C'est vraiment on en a fait un monstre. Alors qu'il n'a jamais prévu tout ça, en fait. Il n'avait jamais prévu de révéler tout ça et que c'est plutôt une prise de conscience. Et il subit, en fait. Il subit donc cet acharnement. Et peut-être ce qui fait le plus mal. Je pense à certains Israéliens un peu fanatisés, c'est le fait qu'il se soit converti au catholicisme. Et donc, il rejette carrément, il rejette le judaïsme, une grande scission avec sa famille, son père est rabbin, il y a vraiment une coupure, une volonté de couper. Et cette volonté de couper, en fait, il n'est pas acceptée par ses concitoyens. Donc je suis en train de travailler sur cette matière-là, je suis en train de construire l'histoire, de trouver un fil, plusieurs fils conducteurs pour essayer de finir une première version avant la fin juin.
Et alors dans cette histoire, il y a aussi d'autres éléments, alors j'allais dire un peu croustillants, mais enfin, j'espère ne choquer personne en disant ça, il y a quand même une histoire de trahison par un journaliste, il a été trahi par un autre journaliste, il me semble, et il s'est fait enlever parce qu'une espionne du Mossad a usé de ses charmes pour le faire venir à Rome. Donc là, ça ajoute aussi à cette histoire et ça donne des bons ressorts pour faire un roman d'espionnage, et il me semble que c'est une forme qui vous intéresse.
Oui, en fait... Effectivement, moi, je connaissais cette histoire. Je l'avais entendu parler à longtemps. C'est marrant parce que quand j'en parle, peu de gens la connaissent. Et moi, c'était resté au fond de ma tête. Et un jour, c'est revenu, je ne sais plus comment, à quelle occasion. Et effectivement, et donc, à travers mes recherches, j'ai découvert tous ces rebondissements. Il y a une série de rebondissements qui font vraiment film d'espionnage, quoi. Voilà. Oui, il s'est fait avoir effectivement par une agente du Mossad déguisée en touriste américaine qui l'a amené en Italie, à Rome. Alors pourquoi à Rome? Pourquoi il n'a pas été kidnappé à Londres? Parce qu'il était à Londres à ce moment-là en train de préparer la sortie justement de... Il était au sein des... enfin, en train de préparer la sortie de ses révélations. Et parce qu'à l'époque, il y avait Ronald Reagan qui était président aux États-Unis et qui était très ami avec Madame Thatcher. Et donc, il y avait toutes... les Américains et les Anglais, on ne voulait pas déranger un peu cette alliance. Et avec Israël, à l'époque, c'était vraiment un rapprochement. C'était vraiment des vrais réactionnaires, quoi. Ils étaient au pouvoir à ce moment-là dans les trois capitales. Et alors, pour ne pas déranger Madame Thatcher, ils se sont dit, on va le faire en Italie. Les Italiens, ils vont s'en foutre d'eux. Voilà. Et donc, effectivement, ils l'ont kidnappé en Italie. Et les Italiens ont commencé, il y a eu des enquêtes, début d'enquête, il y a eu un juge qui a été mis sur le coup, mais qui a, son enquête a vite tourné court. Comme par hasard, ils ne trouvaient pas les éléments, tout avait disparu, enfin voilà. En fait, je pense que le gouvernement italien n'avait pas envie d'emmerder Israël avec ça. Voilà, et donc, mais il n'y a pas eu vraiment une trahison de journaliste, en fait. C'est pas... Disons que le journal a un peu, le Sunday Times a un peu joué, c'est vrai, moi aussi j'en veux un peu au Sunday Times parce que ils ont voulu vérifier son identité. Ils voulaient vraiment être sûr qu'il avait vraiment travaillé dans cette centrale, que ses photos étaient véritablement prises sur place et tout. Ils ont eu un doute parce qu'un an avant, le Sunday Times et le... Je crois que c'était le Bild ou le Der Spiegel en Allemagne, qui avait révélé le contenu des carnets d'Hitler. Alors peut-être que vous ne connaissez pas cette histoire, mais voilà, en 1985, ces deux journaux enfin, voilà, publient les carnets d'Hitler qu'on aurait retrouvés. Ça a fait, quand même un énorme scoop. Voilà, de trouver les carnets d'Hitler où il raconte sa vie, enfin, ou son journal, ou sa guerre et tout. C'était énorme comme truc. Et en fait, il s'est avéré que ce n'était pas des vrais. Voilà. Et donc, comme ça a fait un, un gros pchit, ce truc-là, et ça avait été, ils avaient payé à l'époque cher la personne qui leur avait dit qu'ils avaient trouvé tous ces carnets. Donc, ça s'était... ils étaient un peu refroidis, quoi. Enfin, ça les avait un peu... échaudés, plutôt. Il faut dire, enfin, les deux. Je ne sais plus dans quel cas. Et bref, ils se méfiaient. Alors, ils ont contacté l'ambassade israélienne pour vérifier que, effectivement, que Vanunu travaillait bien dans les centrales nucléaires et tout. En fait, c'est clairement, il leur envoie un message que, voilà, ils vont publier un truc. Donc, les Israéliens le savaient. Ils l'avaient déjà à l'œil, en fait. Au moment où il est arrivé à Londres, il y avait déjà dans le collimateur parce qu'il vivait en Australie à ce moment-là, juste avant d'arriver à Londres. Et donc, il le suivait pas à pas. Et moi, mon hypothèse, et d'ailleurs, je pense pas une révélation, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le pensent, qu'Israël voulait que ça sorte. Donc, ils l'ont utilisé comme bouc émissaire. Et ils attendaient que la publication se fasse. Un, parce qu'en même temps, ça leur permettait de faire peur à leurs ennemis. Mais sans le dire. Donc, c'est pas eux qui le disent. Pas eux qui le révèlent. La preuve sort, et d'ailleurs, ils ont dit non, c'est pas vrai tout ce qu'ils racontent, tout ça c'est faux quand c'est sorti, mais ils ont attendu que ça sorte parce qu'ils auraient pu dire non, vous le sortez pas, ou ils auraient pu arrêter Vanunu avant et le truc ne serait pas sorti, mais ils ont voulu que ça sorte et donc ils l'ont vraiment piégé totalement. Et quand c'est sorti, c'est là qu'ils l'ont kidnappé. En fait, ils l'ont kidnappé avant que ça sorte, juste avant. Et le journal a été assez... ils ont hésité parce qu'ils ne savaient pas où il était à ce moment-là. Il avait disparu pendant une semaine. Ils ont décidé quand même de publier, de prendre le risque. Et voilà. Et puis après, 2 mois plus tard, Israël avoue qu'il était en Israël. Mais ils ont toujours dit non, on ne l'a pas kidnappé. Genre, il est revenu de lui-même en Israël, quoi. Voilà. Bon. Donc, il y a plein de péripéties.
Donc, on voit le plaisir que vous avez à parler... de cet homme, de son histoire, Bernard Boulade. Alors justement, dans une histoire aussi foisonnante, aussi riche, avec plein de tiroirs, de considérations, de choses qui se trament dans l'ombre, comment on arrive à dégager des fils de trame, en fait, pour réussir à faire quelque chose, peut-être qui ne tombe pas dans les clichés du roman d'espionnage, tout en restant dans une considération documentaire? Comment vous arrivez à agencer les choses?
C'était un peu la difficulté de choisir un angle, les angles de traitement et les points de vue. C'est lequel que je veux défendre, lequel que je veux montrer. Est-ce que je peux, en fait, j'aurais pu choisir de différents points de vue, en fait, j'aurais pu le raconter. Par exemple, j'aurais pu le raconter du point de vue du journaliste. David Unam, qui était au Sunday Times, qui lui s'est occupé de cette affaire, est allé le chercher en Australie et qui le suit jusqu'à aujourd'hui. En fait, il est encore en relation avec lui, qui est allé le voir en prison. Enfin voilà, j'aurais pu utiliser ça aurait pu être son histoire. Il s'avère qu'en fait, il a écrit un livre cette histoire lui-même. Et puis j'avais pas envie d'utiliser toujours le journaliste comme comment dire ça, comme médium, en fait, comme passerelle.
J'ai eu peur d'entendre médiocre, mais...
Ah, non. Non, mais comme médium, comme médiateur. Voilà, comme médiateur. Parce qu'on utilise souvent en cinéma ou dans des romans, parfois on utilise le journaliste dans son enquête qui permet de découvrir. Voilà, on le voit faire son enquête. Mais ça, j'avais pas envie de ça. Ça m'embête toujours un peu. Et finalement, j'ai choisi de le faire raconter par lui-même, en fait. Et il y a des lettres, enfin, il y a assez de documents écrits par lui... et ou de reportages qui ont été faits à l'époque, qui peuvent me servir de base. Et je crée, en fait, j'espère qu'elle va, au bout du projet, je vais continuer comme ça. On ne sait jamais, on peut changer parfois en cours de route, mais je comptais garder sa voix à lui qui raconte cette histoire. Voilà ce qui me s'est passé, un peu en recul, en perspective.
Et il est au courant que vous écrivez ce travail?
Non, pas encore. J'ai hésité beaucoup parce que je ne voulais pas que ce projet soit trop connu. Maintenant, il commence à être un peu connu. J'hésite un peu parce que je sais que le Mossad va sûrement s'y intéresser parce qu'il s'intéresse à tout ce qui tourne autour de ce genre d'histoire. Et peut-être qu'ils le savent déjà.
Oui, sûrement qu'ils nous écoutent aussi.
Ils nous écoutent, en ce moment, c'est clair. Mais c'est vrai qu'ils sont très informés. Hein. Ils sont très bien informés. En fait, ils ont des services vraiment dans tous les pays qui... font vraiment des dossiers, des revues de presse permanentes, en fait, sur tout ce qui se dit sur Israël. Et c'est vraiment documenté. Et ils surveillent, en fait, tout ce qui s'écrit. Ils vérifient qu'on ne dit pas des mensonges. Et ils vont réagir. J'ai déjà eu affaire avec eux, je dois vous dire. Mais pas avec le Mossad, mais avec un service de presse. Quand j'habitais à Montréal, j'organisais des festivals de films. Et je présentais notamment, je me suis occupé d'un festival de films documentaires. Et j'avais présenté un film qui racontait la bataille de Jenin, et qui est un film très très dur, qui montre vraiment le siège et tout de Jenin. Et bien, ils m'ont contacté carrément à l'ambassade. Enfin, par l'intermédiaire de quelqu'un qui est soi-disant neutre, mais qui est un peu introduit auprès de l'ambassade et tout. Et on m'a fait comprendre qu'on n'aimait pas que je présente ce film. Et ils m'ont même proposé un film qui dit le contraire de ce que disait le film. Et c'est un film produit par l'armée israélienne. Et donc, il voulait que je le présente en même temps pour faire l'équilibre des points de vue. Et pour moi, c'était absolument impossible. C'était un film, c'était une œuvre. Et là, j'avais un produit de propagande fait par l'armée israélienne qui disait que tout ce qui était dit dans ce film-là n'était pas juste. À la limite, on peut faire un débat, mais pas présenter un film. Et en plus, dernière minute, le programme était déjà fait et tout. Disons qu'ils sont très, ils sont très à cheval, ils sont très assez parano, parfois c'est justifié, parfois non, mais ça, on sait que c'est des services qui sont très, très efficaces. Donc, tout ce qui tourne autour de Vanunu, c'est vraiment très tabou, c'est excessivement tabou, et en Israël jusqu'à aujourd'hui, vous parlez de lui, c'est vraiment, il est considéré comme vraiment un traître, comme un salaud qui a vendu Israël, qui s'est tourné contre son pays, qui a... alors qu'il n'a jamais été traître parce qu'il n'a pas vendu ses informations. Il ne les a pas vendues à Moscou ou à l'époque. D'ailleurs, il est resté 48 heures à Moscou, curieusement, lorsqu'il a quitté Israël, avec les photos dans son sac. Mais il n'est pas allé voir le KGB en leur disant « You ». Il aurait pu. Voilà. Mais il l'a pas fait. Il l'a fait, il l'a vendu à aucun pays. Il a juste donné ses infos au Sunday Times et il a reçu zéro sou, en fait. Il devait recevoir quelques sous un peu pour... voilà. Et c'était pas ce qu'il cherchait. Il cherchait pas à faire de l'argent ou cherchait pas... Voilà. Lui, vraiment... Alors, il y a un côté très naïf chez lui. Justement, il faut que... Faut qu'on le sente un peu ça. Il y a un petit côté naïf. Franchement, il en parlait ouvertement parfois de ce qu'il faisait, de ce qu'il avait vu, des photos qu'il avait prises. Et parfois, certains de ses amis lui disent « Mais tu devrais pas en parler, quoi. Des gens, tu sais pas qui sont ces gens. Il y a peut-être des espions parmi eux. » Et en deux, trois fois, en fait, on pense qu'il a côtoyé certains agents du Mossad, en fait. Oui. Mais voilà, lui, vraiment, pour la dénucléarisation, il considérait qu'Israël ne pouvait pas développer un programme nucléaire parce que pour lui, le nucléaire, c'est... comment dire ça? C'est un vecteur d'holocauste. En fait, c'est pour lui, c'est l'holocauste. Et il dit, voilà, après ce que nous avons vécu, on ne peut pas créer nous-mêmes les outils d'un autre holocauste. On ne peut pas le développer. Et c'est-à-dire moralement, c'est vraiment une position morale qu'il avait. On ne peut pas développer un arsenal nucléaire alors que ça ne crée que... voilà, c'est l'holocauste. Quoi. Voilà, c'est vrai, c'est une arme qui tue... et qui génocidaire, d'une certaine façon, parce qu'on utilise une arme nucléaire, bah, elle peut tuer des millions de personnes, d'un coup. Donc, il considère que voilà, c'est vraiment un acte moral, et politique, bien sûr.
Et d'ailleurs, vous avez vous-même été journaliste, il me semble. Oui. Alors là, dans ce travail-là, où il est quand même question du rôle des médias, d'un lanceur d'alerte, de la confiance qu'il avait dans les médias, des médias qui se sont peut-être fait avoir eux-mêmes, est-ce que ce travail, ça vous semblerait un outil intéressant pour faire de l'éducation aux médias? Puisque c'est très en vogue aussi, l'éducation aux médias. Donc là, est-ce que ça vous semblerait intéressant?
Ben, je pense qu'il faut faire de l'éducation aux médias. Vous avez tout à fait raison. C'est... Disons, pour les générations comme la mienne, par exemple, qui a grandi hors Internet, effectivement, je pense qu'il faut, il faut savoir, maintenant qu'Internet est devenu, non pas un média, mais un support de médias, on va dire, il faut, je crois, effectivement, habituer, je pense, j'allais dire les jeunes, mais pas que les jeunes, même les adultes et tout, à comprendre comment fonctionne en fait la cueillette d'informations, la vérification, le travail de rédaction par la suite et la diffusion. Et qui le fait, le point de vue. La question du point de vue est très importante. Et trouver toujours la source. Et c'est vrai que je pense beaucoup de il y a énormément de désinformations de nos jours qui passe à travers, évidemment, je vais dire les ondes d'Internet, mais ce n'est plus des ondes, mais voilà, à travers Internet, tout ça est un peu anonyme. On peut dire n'importe quoi de façon à peu près anonyme sans se soucier, et d'ailleurs où le privé et la frontière entre le privé et le public disparaît. Je m'en rends compte même dans des SMS ou dans des fils... dans les fils communs qu'on a à travers WhatsApp ou d'autres applis, ou Facebook qui est public, les gens ne se rendent pas compte, en fait. À un moment donné, là, on est, voilà, on est face à tout le monde, en fait, à n'importe qui, qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, voilà. Il y a des, de toute façon, en France, il y a des lois pour interdire certaines opinions, qui sont des opinions, et pas plus, c'est pas de l'information. Alors que dans d'autres pays, non, ça n'existe pas. En France, on considère que, bon, par exemple, la liberté d'information, la liberté d'expression, elle est limitée à certaines... bon, là, il y a un code, il y a des codes. Mais même dans la vie de tous les jours, il y a des codes. Je veux dire, quand on dit bonjour à quelqu'un, c'est un code. Quand on rencontre quelqu'un, lorsqu'on parle à quelqu'un, on lui dit quelque chose, on peut vouloir le tromper, voilà, il y a toujours l'intention, elle est là. Et donc, il y a, je pense qu'il faut codifier. Et moi, je suis... Alors, pas censuré, mais codifié. Et alors qu'aux États-Unis, par exemple, non. Ils considèrent que... Et l'affaire d'Elon Musk, par exemple, avec le rachat de Twitter, est très inquiétante. Hein. C'est très, très inquiétant. Parce qu'aux États-Unis, on peut tout dire. On peut même faire du négationnisme, parce qu'on considère que c'est une opinion, et c'est valable. Et c'est valable comme une autre. Alors, il y aura une autre. On dit que la liberté d'expression est totale, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre dira non. Voilà, et donc, dans cet échange-là, chacun fera sa propre vérité. Mais c'est, ça, c'est joli, c'est mignon, mais c'est en même temps très naïf.
Voilà, les choses sont vraies jusqu'à preuve du contraire. Et alors, cette histoire de Vanunu, comment vous avez pu en parler aux habitants, peut-être de Vatan, puisqu'il y a eu des rencontres, des ateliers? Est-ce qu'ils le connaissaient? Est-ce que ça les a intéressés? Est-ce que certains se sont sentis peut-être concernés par des histoires de être fidèle à une religion, à un pays? Ça peut faire écho chez certaines personnes. Donc, comment ça s'est passé?
Alors, j'ai pas trop parlé de Vanunu. Enfin, j'ai plutôt parlé de mes BD précédentes, plus. Parce qu'elles existent, voilà, et que les gens ont pu les lire, ou voilà, ils avaient des questions à poser là-dessus. Par exemple, on a fait une intervention dans un restaurant, ce qui était assez chouette.
Le Bon Libanais.
Voilà, le Bon Libanais lui-même, à Issoudun. Et j'ai passé 2-3 heures à parler du Proche-Orient, et à expliquer un peu, à faire un cours d'histoire presque, un peu improvisé. Je ne suis pas historien, je suis vraiment historien du... J'adore l'histoire, mais... Peut-être que j'aurais voulu être historien, peut-être, voilà. Mais donc là, on va parler plus du Proche-Orient dans l'ensemble, voilà. Mais je n'ai pas parlé du prochain projet. J'en ai parlé peut-être à d'autres moments, oui, peut-être dans d'autres interventions. Mais je n'ai pas trop développé cet aspect-là. Je vais le faire à Vatan, justement, en sortie de résidence. C'est le
27 mai.
27 mai, voilà. Le 27 mai, une sortie de résidence, et là, voilà, ils invitent la plupart des, voilà, les habitants à venir voir ce que j'ai fait, ou pas fait, ou pas assez fait, pendant que j'étais en résidence, à 20 ans. Et là, je pourrais plus, effectivement, parler du projet, où j'en suis, quoi,
parce
dans ma démarche.
Parce que, comment dire, un tel personnage, ça peut... être difficile des fois comme sujet, pour plein de raisons, selon le regard que les personnes posent sur l'histoire, même sur Israël aujourd'hui, sur les théories du complot, ça peut soulever beaucoup de questions. Donc comment est-ce que vous êtes préparé à cette prise de parole? Est-ce que vous avez anticipé des réactions peut-être un peu fraîches de votre auditoire?
Oui, ça va arriver. Ouais, c'est sûr que ça va arriver. C'est pour ça que j'essaye d'être le mieux documenté, le plus préparé justement sur les éléments réels, pouvoir répondre à des questions précises, disons. On va me dire voilà, ouais, t'es biaisé, t'en fais une victime. C'est comme Snowden, c'est comme certaines personnes comme ça qu'on a. Ou un autre plus controversé, c'est Assange, par exemple, voilà, qui... alors lui, son cas, c'est plus compliqué, c'est plus complexe. C'est vrai qu'il y a une certaine ambiguïté dans Assange. En même temps, il a fait des choses super, et d'autres qui sont un peu plus questionnables. Voilà. Mais moi, de mon point de vue, disons peut-être que, je sais pas, je suis aussi un peu naïf, je suis un peu utopiste, disons. Voilà, je suis un peu utopiste. Mais je n'aurais pas fait ce qu'il a fait, je ne suis pas sûr. Je pense que j'aurais pas eu le courage. Je pense qu'il se rendait compte qu'il allait. Oui, ça allait lui coûter cher. Mais peut-être qu'il pensait pas qu'il allait faire 18 ans de prison. Hein. Et puis, il a été accusé de trahison, ce qui n'était pas évident. Même pour les avocats, ils ont voulu qu'il n'ait pas ce chef d'inculpation. Parce qu'il a été accusé de vol de secret d'État. Ça, je pense que ça s'est avéré. Ensuite, d'espionnage. Bon, c'est limite. Mais trahison, il n'a pas trahi en fait son pays. Il sait qu'il n'a pas vraiment. Il n'a pas vendu cette information. Enfin, il n'a pas mis ça dans les mains d'une puissance ennemie. Ou voilà. S'il avait été vendre ça en Iran ou en Égypte, ou surtout à l'époque, voilà, qui était. Même l'Égypte était en paix, mais à d'autres pays, disons, avec lesquels ils sont en guerre. Ou peut-être pas en guerre, mais considéré comme étant des ennemis. Oui, il aurait été un traître à sa nation, mais il a été soutenu en Israël. Il y a eu tout un mouvement quand même, et même mondial en fait. Il y a eu en Israël, il y a un groupe qui s'occupe de lui, qui le défend. En Angleterre énormément aussi, aux États-Unis. Il y a eu des mouvements pacifistes un peu partout à travers le monde et il a été proposé comme au prix Nobel de la paix plusieurs fois. Bon, ça n'a pas été retenu, mais voilà. Et parce qu'il a fait un geste justement de il a voulu faire prendre conscience à la planète du danger nucléaire. Au Japon, par exemple, vous savez qu'il y a tout un bon, il y a toute une comment dire ça, il y a toute une communauté de personnes qui se battent contre le nucléaire. Évidemment, après Hiroshima, ils savent ce que c'est. Et je pense les derniers survivants d'Hiroshima, bon, il y en a encore qui continuent à, je pense, à faire des manifs et tout pour que contre le nucléaire. Et donc, alors il y a parfois des gens très pour des questions morales. Il y en a d'autres parfois pour des raisons religieuses. Il y a beaucoup de chrétiens. De chrétiens assez militants aussi pour des questions morales aussi, mais par souci de bonté, enfin de voilà de pacifisme, d'humanisme en fait, voilà.
Est-ce que ça veut dire que la guerre ne finira jamais alors?
Laquelle? Laquelle guerre?
Est-ce qu'il n'y en aurait pas qu'une seule dans le fond?
Bah oui, non, oui, oui, il y aura toujours, je pense. Enfin, le monde ne sera jamais pacifié, non. Non, ça, je rêve pas à ce point-là. Par contre, il faut tout faire pour ne pas qu'une guerre éclate. D'autant que moi, bon, voilà, c'est vrai que quand j'étais adolescent, j'ai traversé un an de guerre et encore pas de façon vraiment très violente par rapport à d'autres de mes. Mes concitoyens libanais, quand j'habitais au Liban. Non, il faut tout faire pour éviter, en fait. Et souvent, même dans la confrontation, j'en veux parfois à certaines personnes qui poussent trop loin la confrontation, ou à une forme d'agressivité, sans être nunuche. Voilà, aimons-nous les uns les autres. Je trouve que parfois, il y a certains... J'aime pas les extrêmes, en fait. C'est vrai, j'ai un peu de mal avec les extrêmes, parce que les extrêmes nourrissent les extrêmes. Et je crois que toutes les guerres ou tous les conflits arrivent souvent comme ça, en fait. Ce qui m'attriste le plus, ce sont les rendez-vous manqués de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, parfois il y a des rendez-vous voilà, qui ont pu avoir lieu avec des gens de deux bords différents. On aurait pu s'entendre, mais parce qu'un a poussé trop loin, ou on les a piégés, et tout ça a basculé, quoi. Je pense qu'il y a des moments où... Mais ça, évidemment, avec le recul, on peut le dire. Mais en général, quand même, pourquoi la diplomatie a été inventée, en fait, ou existe, c'est parce qu'on s'est rendu compte que c'est un peu inévitable et que la seule façon de régler des conflits, c'est par, le dialogue, la discussion, voilà. Jusqu'où va le dialogue, la discussion, le compromis? Alors voilà, ça, c'est évidemment, là, on peut aller très loin. En plus, en même temps, on parle de ça aujourd'hui alors qu'on est en plein conflit en Ukraine.
Voilà, voilà donc la guerre des autres, c'était deux albums autobiographiques sur l'histoire de votre famille dans le Liban des années 70,
oui.
On va dire.
74-75, ouais.
Voilà, et donc là, est-ce que ce serait pas finalement presque un tome 3 sur lequel vous êtes en train de travailler? C'est la guerre des autres aussi, quelque part.
C'est marrant que vous dites ça parce que... Et alors que j'ai commencé le début de mon histoire actuelle avec Manoulou, et je me suis rendu compte qu'elle commence un peu pareil, les deux histoires. Presque. En fait, il y a presque. Il y a, voilà. Mais...
Vous avez presque le même âge aussi, je crois.
Oui. Non.
Il est un peu plus âgé.
Moi, j'avais 14-15 ans à l'époque. Et Manoulou, je commence son histoire, il a 10 ans. Voilà. Et... Sa famille habitait au Maroc et il quitte le Maroc. Alors, je l'ai fait quitter le Maroc, en fait. Donc, il y a une sorte de dépossession, d'arrachement et tout ça. Et ça, ça me parle beaucoup. Oui, effectivement. Et j'avais envie de raconter justement ce fait du mythe, en fait, du mythe de la terre promise. En fait, ces Juifs qui habitent au Maroc depuis plusieurs siècles, dès qu'il y a la création d'Israël en 1948, ça déstabilise toutes les communautés juives en fait dans le Proche-Orient, et il y en avait beaucoup, en Irak, en Iran, au Yémen, des grosses communautés. Et toutes ces communautés-là deviennent des boucs émissaires. C'est elles qui payent certaine façon, la création de l'État d'Israël. Ça crée des tensions, alors que dans ces pays, ça se passait relativement bien depuis un certain nombre d'années. Bon, il y a eu évidemment des moments plus difficiles, mais ça se passait plutôt bien. Et donc, il y avait, le Proche-Orient était un exemple de multiconfessionnalisme, de multicommunautarisme, je ne sais pas si on peut le dire, voilà. Mais donc, il y avait quand même une coexistence. Arrive la création d'Israël a tout de suite créé une méfiance, une haine, une agressivité, une violence contre ces populations.
Et à votre avis, comment va être lu votre livre sur Vanunu en Israël?
Comment?
Comment sera lu votre livre sur Vanunu en Israël?
Ben, pas bien, sûrement.
Pas bien.
Et au
Liban?
Hein?
Et au Liban, alors?
Alors, je sais pas. Ça va être intéressant de voir ça au Liban. Je pense que ça sera plutôt mieux vu, c'est sûr. Mais même dans la guerre des autres, le Liban, je tape beaucoup sur le Liban aussi. Enfin, je tape souvent pour sur qui je peux. En fait, oui, j'ai fait même dans ce que j'ai fait ma conférence là au restaurant libanais. J'ai beaucoup tapé sur le Liban, sur son système féodal, sur les archaïsmes, sur ces religions mises de l'avant, promues comme des socles pour l'existence des communautés. Mais qui sont pour moi des blocages en fait vers la modernité. Et je voulais clairement le dénoncer. Enfin, cette guerre, c'est une guerre de gens qui veulent garder le pays tel qu'il est. D'ailleurs, ce n'est pas réglé puisque le Liban est encore dans cette situation 30 ans après. Voilà. Donc effectivement, oui, je me fais des ennemis, mais enfin, j'espère aussi des amis.
C'est ce qu'on disait, la guerre ne finit jamais, malheureusement.
Voilà.
Et est-ce qu'il y a quand même une forme d'humour particulier dans votre travail? Parce que là, évidemment, on parle d'Israël, donc on est tenté de penser à l'humour juif, mais est-ce qu'il y a un humour libanais?
Alors, oui, j'aime beaucoup, oui, effectivement. J'aime bien agrémenter, j'utilise l'humour, disons, comme moyen, disons.
On n'a pas le choix à un moment.
Hein?
On n'a plus le choix à un moment, il faut être drôle.
Oui, c'est une soupape. L'humour, c'est une vraie soupape et c'est super. Enfin, je trouve ça génial, l'humour. Je ne sais pas qui a inventé, mais c'est une bonne chose. Mais ça permet de faire passer beaucoup de choses, en fait. Des choses un peu difficiles. Vous savez, même pendant une guerre, on s'amuse, on rigole beaucoup aussi. Dans des moments de tension terrible, on rigole et parfois, on ne rigole pas du tout. Voilà, mais on passe de l'un à l'autre. Donc, il y a des émotions très, très fortes. Et ça permet de faire passer des choses. Je pense que j'étais assez sensibilisé à ça, je ne sais pas, l'humour... Parce que quand j'étais gamin, je regardais les films des frères Marx, des Marx Brothers. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, c'est cinq en fait, cinq frères complètement délirants, anarchistes. Un humour complètement un peu absurde, assez absurde. Un humour de mots, de dialogue aussi très fort. Woody Allen m'a beaucoup marqué aussi. Donc effectivement, l'humour juif, mais il n'y a pas que l'humour juif. Voilà. Enfin, en général, l'humour, c'est quelque chose qui me plaît bien. Alors, ça va être difficile avec Nanounou de mettre un peu d'humour. Ça ne va pas être évident.
Voilà,
il n'est pas très drôle lui-même, d'ailleurs. Ah. C'est quelqu'un d'un peu... de très, très sérieux, en fait. Enfin, je ne lui fais aucun reproche, parce qu'après tout ce qu'il a vécu, il est comme il est.
Voilà. Et alors, c'est quoi les prochaines dates? Peut-être qu'on peut les rappeler, de sortie de résidence, peut-être d'autres ateliers. Peut-être que vous allez vous produire en conférence. Quand est-ce qu'on peut suivre cette résidence?
Donc le 27 mai, donc j'ai la sortie de résidence à Vatan. Ensuite, je vais participer au festival de la pratique. Peut-être que peut-être que je peux nous en parler.
Oui, la résidence de Bernard, elle s'est vraiment construite de janvier à juin, la date du festival en pratique. Donc le week-end du 17 au 19 juin. Et là, on exposera des planches imprimées de sa bande dessinée La guerre des autres sur des bâches. Voilà. Donc on pourra exposer ça à la pratique. Il pourra en parler au public qui viendra sur le site. C'est une exposition pour les personnes qui sont plus dans le coin qu'actuellement à la médiathèque de Vatan. Donc il y a quelques planches qui ont pu être exposées parce qu'il y a beaucoup. C'est une grosse expo. Nous, on a des petits espaces donc, parfois, donc on fait ce qu'on peut. Mais voilà, donc il y aura une rencontre samedi matin à la médiathèque de Vatan. Une rencontre avec Bernard et puis les lecteurs et les habitués. Voilà, et avant ça, avant ce festival en pratique, il y a aussi la sortie de résidence parce qu'on fait des sorties de résidence qui ont lieu en fin de résidence, très logiquement. Souvent, du coup, c'est un vendredi soir. Et voilà. Et donc là, Bernard pourra parler de son étape de travail, de ce qu'il a pu avancer sur son nouveau projet au public. Voilà, ce sera une résidence partagée avec d'autres artistes qui seront en même temps plutôt donc en danse, qui seront aussi à la pratique à cette période-là. Voilà.
Alors pardon pour cette lubie, mais enfin, je me disais c'est dommage, les assises du journalisme de Tours sont la semaine prochaine, et donc je me dis c'est dommage qu'il n'y ait pas une présentation des ouvrages.
On n'y a pas pensé.
Non, pas du tout. On aimerait faire tout et plein de choses, on ne peut pas tout faire. C'est vrai que bon, nous on a essayé quand même de rester... dans notre territoire, dans notre espace, enfin essayer, c'est pas qu'on a essayé, mais c'est que ça s'est un peu imposé comme ça aussi et que c'était la logique. Bernard, il sera quand même à l'Envolée des Livres, donc le week-end de ce week-end-là, ce week-end qui vient, à Châteauroux, donc le festival, enfin je sais plus comment on appelle ça,
le salon du livre de
Châteauroux, avec Librairix, qui est la librairie de bande dessinée de...
Oui, on sera en fait, il y aura un stand BD en fait,
voilà.
Qui est justement organisé par Librairix.
Mais voilà, on essaye de faire le maximum de choses avec les moyens humains que nous avons et je trouve qu'on a déjà réussi à faire plein de belles choses avec Bernard, avec les personnes qui nous entourent au collège, les lycées, et puis même ses rencontres avec tous les artistes qu'il a pu faire à la pratique quand il était présent. Voilà, ça c'était... et c'est pas fini, hein, mais c'est pas fini. Il y a déjà eu plein de choses qui ont été faites et pour nous, ça a été une super expérience parce que c'est assez rare en fait d'avoir un artiste en résidence et un auteur qui plus est sur une longue durée comme ça. C'est jamais arrivé en fait, je crois encore. Donc voilà, c'est aussi une belle expérience pour nous, une expérience à partager en fait entre les différentes entités.
Moi aussi, j'ai trouvé ça. C'est bien la longueur en fait. J'avais fait une résidence l'année dernière en Dordogne sur 2 mois. C'est un peu plus frustrant, voilà. Mais par contre, j'ai habité sur place, dans un lycée, sur place, et j'ai pu suivre on a fait un travail pratique avec les lycéens. Mais la Covid, il y a eu une résurgence, un reconfinement, il y avait les couvre-feux, donc ça nous a beaucoup retardé, et ça a un peu compliqué, disons, la réalisation d'un projet sur place. Voilà. Là, lundi, par exemple, je suis dans le lycée agricole de Châteauroux. Châteauroux. voilà, j'étais à lycée agricole et là on a monté un projet en 3 heures quoi. C'est avec une prof, elle avait la volonté de créer une forme de dispositif en fait de parcours pour les nouveaux élèves qui rentraient à chaque qui rentrent en septembre et elle a voulu créer une BD en fait, une forme de BD en fait, un genre de parcours comme ça. Il fallait trouver un fil narratif avec tous les lieux du lycée qui est assez étendu, c'est un grand lycée. Et donc on a fait ça en 3 heures, c'était avec 24 élèves, 20 garçons très nerveux, et pour le moins qu'on puisse dire, et 4 filles. Voilà. Et donc ça c'est le genre. Mais moi j'aime bien, j'adore ça. En fait, j'aime beaucoup le faire.
Mais alors, qui dessine? Parce que vous êtes scénariste, mais vous ne dessinez pas forcément.
J'ai pas tous les talents, malheureusement. Voilà. Oui, je suis malheureusement pas dessinateur. C'est vrai que si j'étais dessinateur et scénariste en même temps, ça simplifierait certaines choses. Et bien, j'aurais pas nécessairement la même approche non plus, je crois. Et je serais très frustré parce que je sais que j'aurais aimé... le dessinateur, il a envie de dessiner. Moi, j'ai envie de raconter une histoire. C'est parfois un peu compliqué. C'est-à-dire que moi, j'ai plein de détails à mettre, des éléments d'information dans ce genre d'histoire, disons. Voilà. Et un dessinateur, lui, il a envie de s'amuser, d'avoir des décors, d'avoir de l'action, d'avoir... Enfin, il faut que ce soit riche. Voilà. Et alors j'essaye toujours de penser à ça. Enfin, quand j'écris, quand même, je suis en projection permanente. Dans ma tête, voilà, je suis tout le temps, je visualise, en fait. Et donc, je pense effectivement au lecteur, au dessinateur, qui va avoir à être confronté à cette mise en image, et au lecteur qui va découvrir aussi, non pas un pavé un peu abscon. Il y a des BD qui font ça. Il y a des BD qui sont très des vrais documents de recherche, des enquêtes. Il y a une sur Kadhafi, notamment Kadhafi Sarkozy, par exemple, qui est une vraie enquête, vraiment documentée et tout, avec même un personnage qui joue comme un rôle de journaliste, de conteur, en fait. Et alors ça, il faut s'accrocher, il faut lire. C'est vraiment un document. Alors moi, j'aime romancer.
Plaire et instruire, alors.
Hein?
Plaire et instruire.
Bien instruire, divertir aussi.
Voilà.
Voilà, en même temps. Mais en même temps, faire apprendre. Ouais, vraiment. J'ai envie que les gens apprennent quelque chose.
Voilà. Et ben, cette émission va déjà toucher à sa fin. Merci à tous les trois d'être venus ici. Alors, peut-être qu'on peut rappeler une dernière fois le titre de vos deux ouvrages précédents qui concernent la vie de votre famille au Liban. Est-ce que vous voulez nous les rappeler?
Alors, c'est la guerre des autres. En deux tomes, voilà, distinct, un qui s'appelle Rumeurs sur Beyrouth et le deuxième, je crois, c'est Couvre-feu à Beyrouth, voilà, qui ont été édités à la boîte à bulles, qui sont juste à côté d'ici, des studios, ils sont à Saint-Invertin, voilà, c'est les bureaux de la boîte à bulles. Donc, en plus, voilà, c'est un hasard.
Bon, bah, merci pour l'adresse, parce que j'avoue que j'ai scanné les librairies de la ville de Tours, j'ai trouvé ces deux BD nulle part, donc je sais que je peux aller directement à
Saint-Avertin, voilà. Ouais.
Voilà. Et puis, il y avait aussi alors, un ouvrage du Rififi à Tripoli, encore inédit. Alors, où est-ce qu'on le trouve, celui-là?
Parce que, il n'est pas encore sorti, parce que je l'ai écrit l'an dernier. Justement, grâce à une autre résidence, voilà, là où tu es en Dordogne. Il est écrit, il a dit que c'est compliqué, en fait. Voilà, la sortie de cet album est un peu compliquée. Il y a peut-être des problèmes un peu dans le scénario. Je ne sais pas, il faut que je me démerde pour régler ce problème scénaristique. Mais je vais le régler, je pense bien. Mais il y a un problème pour un dessinateur. Voilà, j'ai du mal à trouver un dessinateur qui soit disponible pour le faire. Et c'est très c'est souvent un peu compliqué. C'est là où, quand son propre dessinateur, on est libre un peu. Là, je dois attendre et il y a certains projets qui peuvent prendre 6 mois, 1 an pour un dessinateur. Et généralement, il prévoit d'en écrire quelques-uns. Donc, c'est très difficile de se mettre dans la file d'attente. Voilà, donc il existe ce projet. C'est autobiographique aussi. Et voilà. Et par exemple, j'ai un projet dans 2 ans. Voilà, en ce moment, je sais que j'ai un projet dans 2 ans parce qu'un dessinateur ne sera disponible que dans 2 ans.
Bon, eh ben, on ne désespère pas de retrouver ces ouvrages sur le stand de la boîte à livres, par exemple, aux assises du journalisme, qui sait. Merci à vous, Bernard Boulade, d'être venu dans la Méridienne. Merci également Mathilde Fombostier, coordinatrice de La Pratique à Vatan. Et merci à vous, Alice Ginsberg, coordinatrice vie littéraire à Cyclique Centre-Val de Loire. À vous, le mot de la fin, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous aimeriez dire en fait de date, d'agenda du côté de Cyclique pour cette résidence ou peut-être d'autres résidences qui sont en cours?
Oui, alors en ce moment, c'est très riche, je vous avoue, puisque effectivement, il y a les nombreuses dates que Mathilde a indiquées pour la résidence de Bernard. D'ailleurs, je crois que vous venez aussi avec votre dessinateur pour l'envoler des livres.
Oui, c'est ça.
Ouais. Puisqu'on parlait de dessinateur. Les prochaines dates... on a Fabien Arca au théâtre à Orléans le 16 mai. Alors Fabien Arca est associé au théâtre de la Tête Noire. C'est pas très loin d'Orléans aussi. Dans les prochaines dates, on aura aussi François Bonne associé à la Charpente. Qui va faire plusieurs interventions, dont une qui est ce week-end. Et en sortie de résidence, on aura aussi Claire Lecoeuvre, qui était venue la dernière fois, le 14 mai. et plusieurs autres résidences qui vont arriver. dont une aussi sur un roman graphique avec Alain Frappier. Et c'est marrant parce que j'ai trouvé quelques similitudes entre Alain Frappier et Bernard dans la façon de faire, parce que c'est aussi un roman graphique, un documentaire sur la révolution au Chili.
Merci à vous. Alors, je suppose que toutes ces dates sont à retrouver sur le site de Cyclique, sûrement.
Oui, tout à fait.
Voilà, donc rendez-vous sur le site de Cyclique, sur le site aussi de La Pratique. Hein. Je suppose qu'on retrouvera tout le programme du festival En Pratique, d'ailleurs, qui se tiendra du 17 au 19 juin 2022. Donc cette émission est à retrouver en podcast sur notre site radiocampustour.com. Et il est temps de laisser l'antenne à la rediffusion de l'émission. Sortez avant qu'on se fasse bouter hors du studio. Bonne journée à tous et à toutes.
Merci.
Merci.